9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Valérie Toragnan.
Bonjour Philippe Bondel.
Vous êtes journaliste, ancienne directrice du magazine Elle, c'était de 2002 à 2014. Vous dirigez depuis la revue des Deux Mondes, une des plus anciennes revues françaises, fondée en 1829, c'est indiqué sur la couverture, qui a beaucoup fait parler d'elle au moment de l'affaire Pénélope Fillon, j'en dis pas plus. Mais d'abord, comment pourrait-on, pour qui ne la connaît pas, qualifier cette revue ?
C'est une revue qui s'est beaucoup recentrée depuis que j'en ai pris la direction en 2015 sur le débat d'idées. Mais dans son histoire, dans son ADN, c'est une revue littéraire, c'est une revue historique, politique, qui a aussi beaucoup, au 19e siècle, été une grande revue de récits de voyage. C'est l'époque où Georges Sand, Alexandre Dumas et Balzac, enfin beaucoup d'auteurs écrivent dans la revue. Et à l'époque, on ne voyage pas beaucoup et le voyage, le récit de voyage est quelque chose de très important. Et puis, aujourd'hui, on lui a... je pense qu'elle elle épouse aussi son époque, comme à chaque fois. Et aujourd'hui, je suis arrivée à la Revue des Deux Mondes en 2015, et même plus précisément en janvier 2015, qui est une date pas anodine, puisque c'est, vous vous en souvenez,
les attentats
Charlie. Et c'était un peu comme un symbole, c'est-à-dire qu'il fallait s'emparer de cette époque, il fallait dire quelque chose. Il y a un comité de rédaction, il y a une équipe dans cette Revue des Deux Mondes qui est composée d'auteurs, de chercheurs, d'universitaires, d'écrivains. Et ce qu'on veut, c'est apporter une réflexion plus approfondie sur les sujets qui sont les sujets sur lesquels aujourd'hui tout le monde s'interroge. Et ça peut être politique, ça peut être historique, ça peut être sociétal. On aborde beaucoup de questions.
Alors, on a aussi une émission média. Depuis votre arrivée, les ventes ont triplé. J'ai lu ça partout. Je ne suis pas arrivé à trouver les chiffres de diffusion. Combien de lecteurs, combien d'abonnés ?
Alors aujourd'hui, on est au total aux alentours de 10 000, ce qui ça dépend des numéros et ça dépend des ventes de chaque numéro, hein, mais on est entre 9 et 12 000, disons. On est moitié-moitié, c'est-à-dire qu'on a moitié d'abonnés. Et puis on a une vente en kiosque qui est extrêmement dynamique et aussi une vente en librairie.
10 000 ventes, il faut les faire, parce que c'est à 18 euros, ce qui n'est pas rien, c'est pas un petit magazine. Quel est votre positionnement politique ?
Alors,
est-ce qu'il y en a un d'abord ?
Traditionnellement, la revue était plutôt au 19e et même au 20e, une revue, disons, du centre, plutôt libérale, plutôt dans le débat d'idées, pas gauchiste, hein, ouais. Ça c'est sûr. Aujourd'hui, je pense que, moi ce qui m'intéresse c'est le débat d'idées, je pense que le positionnement politique d'une revue, mais d'ailleurs le positionnement politique en général, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de très compliqué, parce que est-ce qu'on est de droite, est-ce qu'on est de gauche, j'en sais rien. Est-ce que les Français aujourd'hui se repositionnent comme de droite ou de gauche? Je crois pas, je crois que ce sont des questions un peu obsolètes. Mmh. En revanche, il y a des thématiques qui les passionnent, et c'est ces thématiques-là qu'on a voulu aborder frontalement et sans avoir peur.
Question pas si obsolète que ça, en 2015, à votre arrivée à la tête de la revue Valérie Toragnan, les Inrocs s'interrogeaient, je les cite, après le journal Le Monde, la plus vieille revue intellectuelle d'Europe est-elle en train de basculer d'un conservatisme bourgeois à une ligne éditoriale réactionnaire et pessimiste à souhait ? Que leur répondez-vous ?
Mais écoutez, si à chaque fois qu'on aborde les questions de société ou les questions politiques qui passionnent les Français, on est traité de réactionnaire, je dis que c'est dramatique parce qu'il n'y a plus de débat. Mais de toute façon, notre société s'oriente vers de plus en plus une complication et une confiscation du débat. On le voit par plein d'épisodes, on le voit avec ce qui s'est passé avec les dessinateurs qui sont obligés de partir des rédactions, etc. Donc non, nous, on est dans le débat d'idées et on veut défendre. Les Français se posent des questions, on a envie d'être au cœur de ce débat d'idées et de les aborder franchement.
Alors c'est un procès récurrent que l'on vous fait, et comme pour couper l'herbe sous le pied de vos contempteurs, votre éditorial du numéro de juin, que je montre ici à la caméra, vous pouvez nous voir sur europe1.fr, est titré « Aimer la France, c'est pour faire taire les critiques ».
C'est pour faire taire les critiques, je ne sais pas. La question aujourd'hui, je pense qu'on vit une époque extrêmement compliquée mais passionnante. Ça veut dire quoi aimer la France? Ça veut dire quoi le débat qui s'est installé dans notre société? Est-ce qu'il faut être républicain? Est-ce qu'il faut être nationaliste? Comment on se positionne par rapport aux questions migratoires? Voilà, tout ça, ce sont des questions importantes pour nous et qu'on a envie d'aborder et sans tabou. Ouais. Donc aujourd'hui, si vous voulez, quand vous parlez de... Il y a 30% des Français, vous savez, qui ne savent pas pour qui ils vont voter. Donc est-ce qu'ils sont de droite, est-ce qu'ils sont de gauche, on n'en sait rien. Quand vous abordez ces sujets, vous êtes quoi, de droite ou de gauche? Quand vous abordez l'immigration, vous êtes de droite ou de gauche? Pourquoi dire que dès qu'on aborde des sujets qui sont des sujets compliqués, on vous taxe immédiatement d'être dans le camp du mal? Voilà, nous on se bat contre ça, et on a envie d'ouvrir les portes, de faire réfléchir, et dans tous les domaines, et sans tabou.
Alors vous avez choisi, pour illustrer cet amour de la France, l'écrivain Romain Gary, il est d'ailleurs en couverture de la revue, vous écrivez « Pas une seule goutte de sang français ne coule dans ses veines, seule la France coule en lui ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Valérie Toragnan ?
C'est formidable parce que lui, il est né... C'est un immigré, c'est un juif, il est rescapé de la Shoah. Et il a porté toutes ces questions de l'identité. En fait, il se rit des questions d'identité. C'est aussi ça qui est intéressant chez lui. C'est qu'il dit qu'en fait, tout ça ne compte pas. Il est aujourd'hui... C'est un promoteur de beaucoup de questions. C'est un promoteur de l'écologie. C'est-à-dire que c'est un des premiers à avoir dit « Attention, l'Afrique, ce qui se passe en Afrique, c'est important. » Il le fait, mais avec, si vous voulez, une modernité qui est incroyable par rapport à son époque. Donc c'est ça aussi qui nous a plu. Et puis c'est un homme qui se joue, qui n'a pas peur du subterfuge, qui triche. Et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que la question de l'identité, pour lui, c'est une fausse question. Il n'y a pas d'identité, on se joue des identités. Et tous ceux qui veulent nous assigner à des identités se trompent. Donc c'est ça qui est intéressant aussi avec lui, c'est ça qui est intéressant avec cet homme.
Quoi d'autre dans la revue Des Deux Mondes? Valérie Thoragnan, sa patronne, est avec nous. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Valérie Thoragnan, la directrice de la revue Des Deux Mondes, le numéro de juin vient de sortir avec Romain Gary en couverture. Identité, civilisation, écologie, Romain Gary, les leçons d'une vie. Les lecteurs de la revue Des Deux Mondes sont traditionnellement des gens lettrés. Que vont-ils apprendre sur Romain Gary qu'ils ne connaissaient déjà?
Peut-être c'est surtout la lecture actuelle de Romain Gary qui est intéressante, parce que dès les années, 50, 60, 70, il s'intéresse à des thématiques qui sont extrêmement contemporaines aujourd'hui, comme l'écologie. Mais en même temps, avec cette façon de lui dire « Attention, dans les racines du ciel, attention, nous, qu'est-ce que nous allons faire? Comment nous allons respecter cette planète? Et attention, nous nous adressons à des populations qui, elles, rêvent de progrès. » Et ça, ce paradoxe, c'est très important. Il le décrit très, très bien. Et ça nous, aujourd'hui, c'est absolument actuel. C'est-à-dire, quel va être le rôle de l'écologie? Et puis surtout, il joue de manière absolument fabuleuse avec les identités. Il s'en rit. Il a plein d'appartenances, plein de pseudos. Et ça, aujourd'hui, on est tellement crispé dans ce débat identitaire, c'est aussi une joie et une jubilation de le lire.
Alors justement, à ce propos, il y a un article savoureux, Gary sous le feu critique, morceau choisi. En fait, vous avez retrouvé des articles de l'époque quand Romain Gary, parfois il était encensé, mais parfois il se faisait démolir par la critique. Alors, je vais citer qu'un exemple, parce qu'il faut dire quelque chose pour les plus jeunes, Gary est le seul auteur qui a eu deux fois le prix Goncourt. Une fois sur son nom, une fois sous le pseudonyme d'Émile Ajar. Et le plus jouissif, c'est quand un critique qui avait démoli Gary en sens Ajar sans savoir que c'est la même plume. Alors, il s'appelle Mathieu Gallet, il écrit à l'époque dans Art, il parle de La promesse de l'aube, le livre de Gary. Il est dommage qu'un si beau titre cache un ouvrage manqué. Tout le monde peut se tromper, mais comment peut-on se tromper à ce point? Voilà ce qu'il dit du style de Gary. Et après, La vie devant soi, Mathieu Gallet le même. L'anecdote est touchante, le décor digne avec soin, le pittoresque dosé pour séduire. Bref, le talent ne fait aucun doute.
Oui.
Et ça, c'est assez jouissif.
C'est jubilatoire. Qu'est-ce qu'il devait rire de tout ça?
Oui, et alors justement, ce qu'il en a dit, parce qu'à la fin de sa vie, il en a parlé, et c'est également dans la revue Des Deux Mondes. La dernière partie de la revue Des Deux Mondes est consacrée aux critiques de livres, aux notes de lecture. Vous êtes amusé à plonger dans les... Vous avez fait plein de choses. Est-ce que vous avez regardé d'anciennes critiques de la revue Des Deux Mondes, où par exemple, je ne sais pas, Proust se faisait étrier? Ou est-ce que vous n'avez pas ça?
Si, on a, on pourrait faire un jour un florilège de ceux qui ont dit des absurdités ou ceux qui se sont trompés, bien sûr, mais c'est vrai que ça a été une grande revue littéraire et que ça continue et que chaque semaine, chaque mois, par exemple, on ouvre nos colonnes à des auteurs pour faire des nouvelles inédites. Donc ça, c'est une tradition de la revue qui se perpétue.
Et il y a même une revue des revues.
Oui.
Donc, ce qui est assez confraternel
pour les autres. C'est bien, ouvrons nos colonnes aussi aux autres.
Alors, à propos de notes de lecture, cette partie du journal a fait couler beaucoup d'encre malgré elle à cause de l'affaire dite Pénélope Fillon. On était en 2017, le Canard Enchaîné avait révélé que Pénélope Fillon avait touché entre mai 2012 et décembre 2013 un salaire mensuel brut de 5 000 € de la part de la revue Des Deux Mondes. En réalité, elle n'aurait fourni que deux notes de lecture. Elle avait été engagée directement par le propriétaire de la revue, Marc Ladrette de La Charrière. En quoi cet épisode a-t-il affecté, s'il l'a affecté, l'image de Marc et de la revue?
D'abord, moi, j'arrive bien après cette histoire.
C'est vrai, bien sûr,
je pense pas que ça l'a affecté. C'est une histoire qui a été réglée, qui est passée en procès, qui est jugée. Non, je crois que...
Bon, je vais vous dire, on a une émission média ici, pardon de dire les choses comme ça, mais ça a donné à la revue Des Deux Mondes un boost de notoriété. Il y a des gens qui ne la connaissaient pas, qui l'ont découverte et qui sont même mis à l'acheter depuis.
Oui, comme disait l'autre, toute publicité est une bonne publicité. Mais je pense que nous, on a fait notre chemin et on a tracé notre voie indépendamment de ça et qu'on le faisait déjà et qu'on a continué sur une ligne. Le fait qu'on ait de plus en plus de lecteurs qui s'intéressent à nous, qu'on ait une parole libre et qu'on se moque un peu aussi du politiquement correct, je pense que tout ça, ça se traduit depuis des années et qu'aujourd'hui, on en récolte aussi un peu les fruits, tant mieux pour la revue.
Puisque vous parlez de politiquement correct, je voudrais revenir sur vos combats personnels, Valérie Thorignan, votre engagement féministe notamment, un papier que vous avez publié sur le site de la revue, parce qu'il y a aussi un site, c'était le 8 mars, journée pas choisie par hasard, journée du droit des femmes, vous penchez sur le féminisme, ou plutôt sur ce que ce combat est devenu. Vous dites, la mort de l'universalisme, c'est la fin du féminisme. Qu'entendez-vous par là? Vous dénoncez, je donne une clé supplémentaire, le néo-féminisme intersectionnel et racisé, c'est-à-dire.
Ben c'est voilà, c'est qu'on est aujourd'hui, c'est ces valeurs qui sont des valeurs d'extrême gauche, qui sont tout un discours décolonial, racisé, sont devenues l'alpha et l'oméga du féminisme. On a l'impression qu'il n'y a plus que ça. Moi, j'ai toujours été féministe hein, et je le suis toujours et je suis universaliste. C'est-à-dire que je pense que c'est pas la couleur de la peau qui détermine si on doit se battre pour les droits d'une femme ou pas. Quand aujourd'hui les néo-féministes vous expliquent que le seul combat c'est contre le mâle blanc prédateur occidental et que quand un homme est racisé, ce qu'il fait c'est pas la même chose et c'est pas du même ordre parce que lui il est noir ou maghrébin ou arabe ou musulman, pour moi ce sont des choses inacceptables. En ce sens-là, je continue d'être universaliste et je déplore vraiment le fait que ce combat féministe est versé dans ce néo-féminisme qui s'occupe de race, qui est obsédé de race comme jamais l'extrême droite n'a été obsédée de race avec
par
la
exemple,
bénédiction du camp du bien. Ben, voilà, typiquement, si vous êtes un homme racisé, comme on dit, votre victime a pas de chance parce que la pauvre, comme son prédateur est racisé, on va pas en parler parce que le prédateur est d'abord une victime. Et ça me scandalise. Donc non, le combat féministe, il est universaliste. D'abord, les femmes, ce sont pas une minorité, c'est la moitié du monde. Donc je continue de porter ces valeurs à l'intérieur de la revue des deux mondes et je pense qu'elles sont essentielles et qu'on est en train de se perdre et que le combat féministe se perd.
À propos d'intersectionnalité, vous avez vu ce qui s'est passé à Tours, qui a créé beaucoup d'émoi, y compris dans la communauté homosexuelle. Il y a une manifestation pour défendre les droits LGBT qui était prévue samedi. L'annonce d'un cortège non mixte pour les personnes racisées, comme vous dites, au sein de la manif, qui était prévue, a suscité une vive polémique, notamment sur les réseaux sociaux. Et l'association qui organisait la marche, pourquoi, annonçait sur son compte Instagram, je cite là, je prends bien mes notes, qu'un cortège de tête en non annonçait un cortège de tête en non mixité pour les personnes LGBT plus racisées prévues lors de la marche. L'association ajoutait que toute personne blanche qui essayera de s'incruster dans ce cortège se fera cordialement ou non dégager. Réaction.
C'est d'une violence incroyable, c'est d'une violence symbolique et même la physique carrément qui est annoncée. Est-ce que c'est ça la France dont on veut? Est-ce que c'est ça le débat dont on veut? Le débat intellectuel, le débat politique? Je ne pense pas et je pense que la majorité des gens subit ça et subit un terrorisme intellectuel aujourd'hui de la part de ces groupements qui veulent mettre en avant la différence, la race et la minorité. Et ça, je pense que c'est un échec et c'est un recul.
Voilà. Et malheureusement, de la haine s'ajoute à la haine puisque du coup, des menaces de mort ont été proférées contre les organisateurs de cette marche. Et du coup, la marche a été annulée. Merci Valérie Thorignan. Je
Merci
rappelle, la revue des deux mondes, c'est désormais en kiosque. Le numéro de juin coûte 18 euros. En couverture, Romain Gary. Et alors, ce titre dont on n'a pas eu le temps de parler, la France est-elle un pays communiste? Rien que poser la question quand même. Culture Média, après le rappel des titres de 10h, on va recevoir Eva Rock et Bertrand Chameroy. Notre invité culture ensuite sera la comédienne et animatrice Anne de Pétrigny pour son tout premier livre. Ça s'appelle La Quête. Il y a un sous-titre ou éventuellement un titre bien meilleur. C'est le vrai titre. Il y aura les indispensables aussi. À tout de suite.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.